Le but de notre évolution doit être l'homme. Et alors, c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but.
Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Suds en général et les mondes africains en particulier, car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radical, cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Fadel Barrow, cofondateur et ex-coordinateur du mouvement Yanamar au Sénégal, qui a semé les graines de l'insurrection citoyenne en 2011. On revient sur la genèse du mouvement, le contexte de la mobilisation et les stratégies qui ont été mises en œuvre pour donner forme à une puissante contestation populaire constructive. On découvre comment la jeunesse africaine conscientisée a refondé l'espace du politique, la créativité dont elle a fait preuve pour inventer de nouveaux outils d'éducation populaire adaptés au contexte, c'est-à-dire ancrés dans la culture locale, en langue locale, enracinés dans des situations de vie réelle et concrète et diffusés à travers une culture véritablement partagée par tous. Yanamar est parvenu à repolitiser le social, à l'arracher au fatalisme religieux, et le réveil populaire qui s'en est suivi n'a pas dit son dernier mot. Le processus de réappropriation du politique initié est en cours de mutation. Fadel Barrow nous raconte le pourquoi, le comment et surtout ce qu'il reste à faire. La stratégie et la créativité yanamariste a porté de beaux fruits car Abdoulaye Wade a été contraint de quitter le pouvoir par la voie des urnes. Mais le plus important est peut-être l'espace qui a été ouvert, celui des possibles, en montrant que l'engagement politique peut passer par des voies alternatives aux partis. Yanamar s'est rapidement doté d'une philosophie d'action citoyenne au service de la transformation de la société. Le nouveau type de Sénégalais, comme pratique de la recherche de solutions aux problèmes identifiés, d'incarnation du changement que l'on souhaite voir advenir. C'est passionnant et vivant. L'aventure Yanamar n'est pas terminée, elle se transforme et la dynamique accompagne d'autres initiatives comme l'Université populaire des mouvements citoyens et des liens avec d'autres jeunesses africaines en lutte. On attend donc, selon le proverbe Wolof, le deuxième saut, celui qu'il reste à faire, ou bien encore, peut-être, la nouvelle manière de sauter qui est à inventer. La clé du nouveau saut est peut-être à chercher dans le qui saute, et l'on a hâte de voir ce qui se passe quand les intellectuels réarticulent et actualisent le discours émancipateur panafricain pour l'adapter aux besoins de ce que l'Afrique est devenue aujourd'hui. L'entretien a été enregistré dans les locaux du mouvement, près de la VDN à Dakar, donc il y a un petit peu de passage. Il y a également de nombreuses références citées, dont on mettra les liens dans la lettre de ressources qui va accompagner cet épisode, donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description. Et je vous invite également à écouter ou réécouter l'épisode sur le panafricanisme et les mondes africains révolutionnaires avec Hamzat Boukhari Yabara, qui permet de bien comprendre l'héritage de la tradition de pensée politique africaine yanamariste. Bonne écoute. Fadel Barrow, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes sénégalais, journaliste de profession, mais depuis 2011, on vous connaît principalement pour vos activités militantes, car vous avez été coordinateur du mouvement Yanamar au Sénégal, un grand mouvement populaire de contestation sociale qui est né dans le contexte où le président Abdoulaye Wade cherchait à modifier la constitution afin de rester au pouvoir dans le cadre d'un troisième mandat. Donc l'aventure Yanamar a porté de beaux fruits et a essaimé dans d'autres pays d'Afrique, on pense au Burkina Faso, au Congo notamment. Il y a vraiment une dimension générationnelle importante dans ce mouvement. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de Y'en a marre, comment est né le mouvement, quelles ont été les pratiques, les méthodes qui ont permis de mobiliser la jeunesse. Voilà, parce qu'il y a une réelle inventivité en termes de forme d'action, de lien avec la culture, en tout cas, voilà. Donc, Fadel Barro, c'est à vous.
Merci beaucoup pour cette opportunité de nous adresser encore à davantage d'Africains, à davantage d'humains, pour mieux expliquer et faire comprendre notre action, qui est une action de la jeunesse africaine. D'ailleurs, je dois faire une précision. Quand vous dites que Fadel Barro, vous êtes Sénégalais, je dirais que je suis un Africain vivant au Sénégal. Et en tant qu'Africain vivant au Sénégal, je sens et je ressens tous les problèmes auxquels sont confrontés les Africains qui vivent dans d'autres pays, comme en Guinée en ce moment, où le troisième mandat risque de déstabiliser la paix sociale. Je ressens les difficultés de nos frères de Iina au Tchad, qui se battent dans des contextes extrêmement violents et fermés pour faire entendre cette opinion de la jeunesse africaine qui veut un mieux-être, concernée par tous ces problèmes africains. Y'en a marre, pour répondre à votre question, Y'en a marre est parti sur un coup de gueule, en fait. C'est parti sur un coup de gueule d'une bande d'amis qui avaient l'habitude de se rencontrer. C'est des journalistes, c'est des rappeurs, c'est des étudiants, c'est des marabouts comme celui qui est juste en face de moi, et qui avaient l'habitude de se croiser dans un petit salon, dans un quartier quelconque des parcelles assainies en banlieue dakaroise, pour parler des problèmes du pays, parce qu'ils sont tous dans leurs différents métiers. Le hasard a fait que ce soit le groupe du Kergui, ils étaient connus dans l'engagement, c'est un groupe très très engagé. Que ce soit moi et Alioune Sané qui sommes journalistes, étions à l'époque dans des organes de presse plus ou moins très très engagés aussi, et avions l'habitude de nous rencontrer pour causer des problèmes du pays. Ce jour-là, à la suite de presque de 20 heures de coupure d'électricité, parce que nous étions dans un contexte de coupure d'électricité, des échanges se sont produits sur l'effectivité et l'efficience de nos différents engagements dans nos métiers respectifs. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement en tant que rappeurs pour tous ces... Je me rappelle aux amis rappeurs, qu'est-ce que vous faites en ce moment même où vos fans qui étaient en train d'écouter vos chansons n'y arrivent plus parce qu'il n'y a pas de courant. Donc finalement, votre rap, à part un petit groupe d'initiés, n'a pas d'impact. Et ils me disaient, mais vous, les journalistes, en fait, qu'est-ce que vous faites aussi à part d'écrire pour une population majoritairement ininstruite dans la langue française et qui, dans des journaux qui, de plus en plus, ne sont pas lus parce que les gens ont perdu les habitudes de lecture. Donc voilà, autour de cette discussion, nous avons convenu de mettre en place un mouvement qui s'appelle Y'en a marre. Pourquoi Y'en a marre ? Parce que Y'en a marre traduisait exactement notre ras-le-bol, notre état d'esprit en ce moment-là. J'ai l'habitude de dire que si on avait trouvé un mot japonais ou un mot en wolof qui traduisait ce que nous ressentions à l'époque, on l'aurait trouvé. Mais on n'a pas trouvé mieux que Y'en a marre, parce qu'on en avait vraiment marre. On avait marre de ces coupures d'électricité, mais on avait surtout marre de cette jeunesse-là qui, en ce moment-là, ne fait absolument rien pour changer les choses. Parce qu'il faut rappeler, dans ce contexte-là, les seules voix audibles à l'époque, c'était les imams de Guédiawaye. Une association d'imams, pour la plupart qui sont des fonctionnaires retraités, qui ont décidé de se recycler dans l'imamat pour continuer à avoir un statut social. Parce que c'était ça la particularité des imams de Guédiawaye, c'est par la plupart des fonctionnaires qui, une fois à la retraite, sont devenus des imams de leur quartier. Et ces imams s'étaient regroupés autour d'une association pour refuser de payer les factures d'électricité. Alors je disais aux amis, qu'est-ce que vous faites, vous, jeunes, au moment où les seules voix audibles dans ce pays, c'est des personnes du troisième âge, alors que le pays est majoritairement jeune. Donc, tout ça a nourri notre désir de ne plus se fier aux icônes politiques classiques. Quand je dis les icônes politiques classiques, c'est à la fois les politiciens dans l'espace partisan qu'on appelle les partis politiques, mais c'est aussi tous ces syndicalistes-là qui, avec le temps, sont devenus corrompus, parce qu'Abdoulaye Wade avait réussi, avec un système de corruption, à faire effondrer tous ces mécanismes sociaux capables de s'ériger en rempart contre les assauts du pouvoir. Donc, comme on peut voir partout en Afrique, le mouvement social est complètement à terre parce que divisé dans des préoccupations partisanes est souvent cupide. Mais aussi dans le cadre du Sénégal, même ces marabouts-là, parce qu'il faut comprendre qu'à la base, le contrat social sénégalais au moment des indépendances est fondé sur une relation triptyque entre l'homme politique qui était à l'époque le pouvoir colonial, les citoyens et le marabout. Avant les indépendances, les populations sont allées beaucoup se réfugier derrière les marabouts pour résister. Et il s'est opéré une véritable résistance culturelle que l'on voit encore au Sénégal, d'où la force des marabouts. Donc voilà. Et donc à l'époque, le pouvoir maraboutique protégeait les citoyens qui sont réfugiés derrière lui et lui donnait aussi sa force contre le pouvoir colonial à l'époque qui était le pouvoir politique. Petit à petit, avec les indépendances, les difficultés que nous avons connues, petit à petit, ce pouvoir-là s'est presque allié avec le pouvoir, mais parce que ne jouant plus son rôle de rempart contre les assauts du politique. Et le pouvoir politique n'est plus colonial, mais est devenu un pouvoir politique de nos États que nous connaissons, post-indépendance. Donc voilà. Donc nous nous retrouvons en 2011, dans cette société-là que les gens n'ont pas suffisamment analysée, où en réalité le citoyen est délaissé. Parce que ceux qui sont censés le représenter, ils sont plus là que pour leurs propres intérêts, plutôt de se préoccuper des intérêts du commun. C'est nourri donc de toute cette frustration et de cette rage, on a décidé de ne plus nous faire représenter par qui que ce soit et de nous faire nos propres porte-parole. Et en se faisant notre propre porte-parole, nous faisons l'écho sonore de ces frustrations de ces millions de Sénégalais. Donc nous avons dit Yanamar. Et quand nous avons dit Yanamar, très vite, nous avons refusé que Yanamar soit simplement un slogan. Nous en avons fait une réalité organisationnelle. Une réalité organisationnelle à travers le pays. Tu vois, nous avons très vite monté les esprits Yanamar. Les esprits Yanamar, c'est les démembrements de Yanamar dans les différentes localités, qui aussi avaient une certaine différence par rapport à l'organigramme classique. C'est que l'esprit Yanamar ne dépend pas d'une structure centrale au niveau de Yanamar. Non, il n'y a pas de structure centrale. Nous avons demandé aux jeunes, dans l'idée de libérer les initiatives et le leadership, à chaque fois que vous avez envie d'adhérer à Yanamar, regardez autour de vous quel est, il y a forcément un problème, il y a forcément une cause que vous pouvez porter. Soyez vos propres porte-parole. Donc, nous avons très vite développé une panoplie de petites associations à la base qui, avec le label de Yanamar, se sont préoccupées des problèmes de la guerre en Casamance, si c'est en Casamance, de l'insalubrité à Kaolack, du problème de d'écologie à Saint-Louis, particulièrement à Gagnol ou à Djourbel, où les jeunes ont essayé, dans une ville culturellement morte, de la faire revivre. Donc voilà. Donc, et ça nous a permis, et très vite aussi, nous sommes en janvier 2011, entre janvier 2011 et mars 2011, nous avons senti la nécessité de mettre en place ce qu'on a appelé le nouveau type de Sénégalais. Pourquoi le nouveau type de Sénégalais ? Parce qu'il ne s'agit pas que de dénoncer. Il faut aussi être la solution du problème que l'on dénonce. Et pour cela, nous avons pensé qu'il fallait codifier, même pas codifier, nous avons refusé de codifier un type d'homme, sachant qu'aussi l'histoire nous a montré qu'à chaque fois des gens ont voulu codifier un type d'homme, ça a fini par la violence inouïe. C'est chez les nazis qu'on voit ça, ou chez les salafistes, on pense que l'homme doit être comme ça et comme ça. Et c'est pour ça, jusqu'à présent, nous avons refusé de codifier, d'écrire le nouveau type de Sénégalais doit être ceci, il doit être ressemblé à ça. Non. Nous en avons fait juste une série de devoirs. Mon devoir en tant que citoyen, c'est de ne pas baisser les bras face à la corruption. Mon devoir en tant que citoyen, c'est de ne pas, dans cette décadence écologique et environnementale, d'être utile à ma société. Bon, bref, nous avons codifié une certaine qualité de citoyenneté que nous avons appelée le nouveau type de Sénégalais, où le jeune, après avoir fait le pas d'exprimer son yanamarisme, d'être la solution à travers le nouveau type de Sénégalais, qui est une philosophie d'action citoyenne.
D'accord, donc ça c'était le manifeste du nouveau type de Sénégalais.
Appelons-le comme ça. Mais vous savez, la Yanamar nous a très conscients très tôt que nous sommes dans une culture où l'oralité est plus importante. Nous n'avons pas donné beaucoup d'importance à l'écriture.
D'accord.
Nous avons beaucoup rappé, nous avons beaucoup parlé, nous avons beaucoup chanté pour que les gens comprennent. Ça aussi, je dois l'expliquer. Comme Yanamar étant composé d'hommes de lettres et d'artistes, donc des journalistes et des rappeurs, nous avons utilisé aussi tout ça pour nous faire entendre. Tu vois. Et à travers le hip-hop, aussi, nous avons beaucoup d'ailleurs, nous avons utilisé dans un premier temps l'appareil du hip-hop, parce que les gens ne se rendent pas compte que le hip-hop est un appareil politique. Parce que dans les villages les plus reculés, vous trouverez toujours des gens qui se font porter un gros jean, descendent leurs pantalons et se disant « moi je suis rappeur, je dépends de Tupac ou machin, machin ». Donc, il y a un appareil. Partout, il y a des jeunes qui se réclament du hip-hop. Donc, nous avons utilisé cet appareil du hip-hop pour infiltrer aussi les masses. Ça, c'est sur le plan hip-hop. Sur un autre plan, nous avons lancé des formes de pétitions qui n'en sont pas vraiment une, à travers ce qu'on appelait les 1000 plaintes contre le gouvernement du Sénégal. C'était une manière d'infiltrer les masses, mais c'était une manière aussi de lutter contre le fatalisme et le laxisme dans un contexte où les gens s'en remettent à Dieu au lieu d'identifier clairement le responsable à leur problème et de le combattre. Mon ami Tchad a l'habitude de dire que le Sénégal est un des rares pays, sinon le seul pays au monde où on trouve un quartier qui s'appelle Kharialla. Kharialla veut dire en wolof attendre Dieu. Waiting God, on peut rester dans dormir sur le Dieu va arriver un jour. Alors pour rompre avec ce fatalisme là, les 1000 plaintes c'était rien du tout que une petite 10 points où le jeune il dit je suis étudiant, je n'arrive pas à percevoir ma bourse. Je suis fermière de famille, on m'avait promis une baisse des prix, maintenant les prix sont devenus plus chers. Je suis enseignant, je suis élève, je subis la grève des enseignants, je suis. Et enfin, on dit que tous ces problèmes, c'est parce que mon gouvernement est responsable et je l'identifie comme le principal responsable et je porte plainte. Et nous collections ces plaintes dans le but de quelqu'un, quand quelqu'un signe une plainte, il commence une action déjà. Donc voilà, il a désigné un responsable, ce n'est plus l'affaire de Dieu. Bon voilà, donc voilà, une panoplie d'activités comme ça, avec des campagnes aussi comme Das Fananal. Das Fananal, qui veut dire en Wolof, aiguiser son couteau en vue d'égorger. Le terme est violent, on nous l'a vite reproché. Mais l'idée, c'était que c'était fait exprès. Parce qu'on se disait que cette jeunesse qui subit la violence de la corruption, qui subit la violence de la malgouvernance et de la cupidité de ses dirigeants, au point de pouvoir prendre la mer ou le désert pour fuir le pays, il subit de la violence. Cette jeunesse-là a envie de violence parce qu'elle fait déjà, elle exerce une certaine violence chez elle, parce que cette jeunesse qui adhère dans les mouvements djihadistes comme Boko Haram, c'est cette jeunesse aussi qui se radicalise en prenant la mer ou le désert. Alors, nous, on a essayé de détourner cette violence et d'en faire une énergie positive. En disant que, ok, nous sommes capables de violence, mais ma violence, ce sera ma carte d'électeur. Parce que, après le slogan, c'est ma carte, mon arme. Tu vois. Et puis, c'est aussi des termes populaires. Das Fananal, parce que les jeunes l'utilisent, c'est aiguiser son passeport en attendant de trouver une opportunité de voyager. Tu vois. Donc, nous avons pris ces termes populaires-là et en faire des slogans citoyens. Parce que, avec ma Das Fananal, ma carte d'électeur, mon arme. D'ailleurs, au finish, après s'être opposé sur le terrain et physiquement à travers différentes campagnes contre la candidature d'Abdoulaye Wade, des mobilisations de masse et populaires dans la rue, nous avons en définitive sorti nos cartes d'électeur pour éliminer Abdoulaye Wade. C'est par le vote et c'était fait. Depuis le début, nous avons compris que ce pays. Ça aussi, on n'en a pas suffisamment parlé parce que les gens, ils oublient que nous, très vite, on était conscients que nous étions l'héritier d'un long processus de lutte de la jeunesse et de la population simplement du peuple sénégalais qui n'a jamais connu de coup d'État. Il y en a mal été possible au Sénégal parce qu'il y avait un espace de liberté qui était aménagé aussi. Et cet espace-là, c'est pour ça qu'on pouvait nous s'exprimer. Vous ne pouvez pas faire la même chose au Tchad. On ne vous laissera pas le dérouler de la même manière. Donc, nous disons que aussi nous sommes les héritiers d'un pays qui a été préservé de toute cette violence-là. Et pour ça, il fallait la préserver. C'est pour ça aussi, quelle que soit la densité et l'ardeur de la lutte, nous n'avons jamais franchi le Rubicon. Et nous avons décidé, à la veille des élections, au moment où une bonne partie des partis politiques de la société civile réunis dans le M23 a décidé de boycotter l'élection, nous disons non, nous allons voter. Parce que nous nous étions prémunis, nous avons nos cartes d'électeurs et nous allons surveiller le scrutin. Et c'est comme ça qu'Abdoulaye Wade, 380 000 jeunes ont été inscrits, ce qui a balloté et envoyé Abdoulaye Wade au deuxième tour. Et avec la campagne Togali, qui veut dire en finir, nous en avons fini avec lui. Même si aujourd'hui, malheureusement, on voit que les hommes que nous avons combattus, mais les principes et les antivaleurs que nous avons combattus ont toujours pignon sur eux. Donc je m'arrête un peu, non?
Oui.
Pour vous permettre de poser une question.
Voilà. Non, c'est pas obligé. Mais d'accord, donc en fait, Il y en a marre, ça a été surtout un activateur, un moyen de réveiller les consciences politiques de la population, d'intégrer la jeunesse, ou en tout cas de s'adresser à la jeunesse et de lui permettre de réellement comprendre qu'elle avait un rôle à jouer et qu'il fallait qu'elle se réveille et que c'était son destin qui était entre les mains de vieillards, ou de personnes qui n'avaient pas ses intérêts propres à cœur. Et au final, ça a été... Enfin, le mouvement a quand même, s'est tout de même intégré dans le jeu électoral, dans le sens où il a atteint ses objectifs, mais par le jeu démocratique.
Oui, mais parce que, vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'Yann Amar a décloisonné l'espace politique fermé aux jeunes. Il a fait irruption dans cet espace et a tracé un nouveau possible. Parce que pour les jeunes, faire de la politique, c'est juste simplement s'engager dans un parti politique. Nous leur avons montré qu'ils peuvent s'engager en politique avec la citoyenneté. Ils peuvent être utiles et déterminants dans les choix politiques des populations sans y être vraiment. C'est ce chemin-là, c'est ce possible que Yann Amar a ouvert. Et en l'ouvrant au Sénégal, il l'a ouvert dans tous les pays africains. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, moi, que si je dois voir quel est le mérite de Yann Amar en définitive, je dis simplement, c'est d'avoir ouvert un possible. Parce que jusque-là, les jeunes ne se reconnaissaient pas dans les partis politiques classiques, les jeunes ne se reconnaissaient pas dans la société civile classique, bureaucratique, très attendant des fonds, d'un bailleur de fonds pour pouvoir exister. Nous avons vraiment montré qu'ils peuvent prendre la parole, être écoutés et être efficaces, servir à quelque chose pour leur pays. Et ça aussi, tout en respectant les lois et règlements, c'est dans ce qui est aménagé, parce que avant, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté, je le parle sous le contrôle d'Aline Sané, qui est l'actuel coordinateur de Yann Amar, qui rentre tranquillement dans la salle, il peut prendre la parole quand il veut d'ailleurs. Je disais à un jeune Guinéen qui m'expliquait que oui, mais chez moi, au Guinée-Bissau, c'est pas... Non, il venait du Congo-Brazzaville. Je l'ai rencontré aux ateliers de la pensée. Il dit que moi, je veux bien, mais tu sais, chez nous, c'est difficile. Je dis, mais je connais des jeunes au Congo-Brazzaville qui essaient de faire des choses dans ce qui est possible chez eux. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui est possible. Pourquoi on se dit que tout est impossible. On ne regarde que les limites et on ne voit pas toute la richesse possible dans le champ possible. En fait, c'est ça que je lui explique. Je dis que même si tu dois aller chez toi à Brazzaville, décider de nettoyer devant le palais chaque jour, c'est quelque chose de possible. Et qu'on te laissera faire, et ça vous permettra de toucher au moins 5-6 personnes qui passeront devant cet endroit-là. L'idée, c'est de ne pas baisser les bras, et puis d'être dans cette position-là, de recherche de solutions. Et non pas de dire, ok, le destin, d'ailleurs, non, nous avons un slogan très fort, il n'y a pas de destin forclos. Il n'y a que des responsabilités désertées. On le répète beaucoup et on ne le répétera jamais assez. Qui est d'ailleurs une compréhension de Franz Fanon, que chaque génération doit, dans une relative opacité, l'accomplir ou la trahir. Nous avons fait une autre compréhension en disant qu'il n'y a pas de destin forclos, donc. Il n'y a que des responsabilités qui sont désertées. Parce que dans toutes les façons, il y a quelque chose à faire. Et c'est ça qui a été séduisant chez Yann Amar. Ça a été séduisant dans la mesure, surtout... Quand, après le départ de Ouad, nous avons refusé de rentrer dans un gouvernement. Parce que si on avait... Parce que Macky Sall l'a voulu, hein, l'actuel président, il a voulu tout de suite qu'on rentre dans les rangs. Nous avons refusé. Parce que nous avions dit à l'époque, si on rentre tout de suite dans un gouvernement ou qu'on rentre tout de suite en politique, bon, les jeunesses, les gens, ils diront que de toute façon, ils l'ont fait pour ça. Et il fallait leur montrer que non, on peut être utile après retourner faire ce qu'on a à faire. Et qu'en continuant avec... d'exister en tant qu'entité et de rendre forte cette entité-là dans laquelle on s'est engagé. Donc voilà, et tout ça a été exemplaire. Parce qu'en définitive, nous avons l'habitude de le dire, dans l'action, dans l'espace public, c'est l'exemplarité qu'on retient. Ce n'est pas les réalisations qu'on retient. C'est l'exemplarité qu'on retient.
Oui, une forte dimension symbolique.
Symbolique. Mais le mouvement citoyen n'a que ça en définitive. Nous n'avons pas la prétention d'être d'accord avec tous les Sénégalais. Nous n'avons pas la prétention de toujours de mettre autant de monde dans la rue. Nous ne sommes pas un parti politique qui compte le nombre de voix non plus. Nous n'avons pas la prétention d'un parti politique de compter le nombre de militants que nous avons pour dire que nous avons un tel nombre. Non, ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est le symbole, les actes symboliques qui peut influencer très efficacement la société. Je donne un exemple. Pendant toute son existence, Yanama a toujours balayé les espaces à la fin d'une manifestation. Après, tous les politiciens le faisaient. Après, pendant la campagne électorale, tous les partis politiques, après leur manifestation, ils balayaient. Donc, on les influence. Nous avions initié une école, un drapeau, parce que dans un contexte, Abdoulaye Wade aussi avait désacralisé les institutions. Nous avons voulu rendre aux pilier de la République le respect du drapeau, etc., etc. Et, à la fin, le président Macky Sall se rendant compte que cette jeunesse-là a envie de... Il lui-même a commencé à chanter l'hymne national, à lever des drapeaux, etc. Tu vois? Voilà, c'est beaucoup de choses.
Ça, c'était dans une optique un petit peu de reconstruire un sentiment d'appartenance nationale ou de respect de...
Un sentiment... C'est de dire juste que c'est à nous... Nous avons les capacités d'en faire ce que nous voulons de notre pays. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Après, on peut ne pas être d'accord avec le drapeau du Sénégal, comment ça a été choisi. On peut ne pas être d'accord avec l'hymne national, comment ça a été installé, ça et tout. Mais pour l'instant, c'est cet hymne que nous avons. Et nous n'avons pas créé un autre hymne. Et on a besoin d'un hymne, c'est important. Donc, au moment où Abdoulaye Wade avait créé un hymne à côté, et qu'il n'assumait pas, mais qu'il faisait remplacer petit à petit avec l'hymne national. Mais tout ça aussi est très contextuel sénégalais, il faut le comprendre. Mais pour le symbole, c'est juste de dire aux jeunes, le pays nous appartient. Tu vois, c'est à nous d'en faire ce que nous voulons.
D'accord, donc se réapproprier.
Se réapproprier notre pays. Justement, d'ailleurs, notre première grande manifestation, c'était le 19 mars 2011. Pourquoi le 19 mars 2011 ? Parce que le 19 mars, c'est l'anniversaire de la première alternance démocratique qu'il y a eu au Sénégal en 2000. Tu vois, coup Abdoulaye Wade arrivé au pouvoir après 40 ans de règne socialiste. Alors, mais chaque année, ce sont les politiciens qui fêtaient cette date-là. On l'avait laissé aux politiciens. Nous avons fait une grosse manif, c'est la première grande grosse manif à Yanama, pour dire quoi ? Pour dire aux Sénégalais, c'est notre histoire. L'alternance démocratique, c'est notre histoire, c'est notre fait. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas les politiciens qui ont amené l'alternance, c'est nous qui avons voté, particulièrement la jeunesse sénégalaise, qui avait voté pour changer Diouf pour Abdoulaye Wade. Cette non-violence, ce n'est pas le fait des politiciens, c'est parce qu'on les a jamais suivis dans leur désir de pouvoir. Donc, c'est à nous de fêter l'alternance et de montrer que nous sommes capables de faire une autre alternance. Voilà. Nous avons fêté cette alternance-là et d'ailleurs, ça a été tellement une réussite que le pouvoir s'était confiné au palais. Ils l'ont fêté au palais, ils ne pouvaient même pas sortir parce que il y a le monde qu'il y avait à la place de l'obélisque. Que même les partis politiques classiques de l'opposition se sont allés emmurer en banlieue parce qu'il n'y avait plus d'espace ici à Dakar. Voilà. Donc c'était une manière de se réapproprier notre histoire. Mais pas une réappropriation stérile, de juste pour se réapproprier, pour dire que oui, nous sommes notre histoire. Non. Pour dire que, pour montrer à ceux qui gouvernent que nous sommes capables, nous avons été capables d'une alternance, et nous vous montrons aujourd'hui que nous sommes capables d'une autre alternance. Que le cheminement du pays, l'histoire du pays, ce n'est pas que vous. Nous sommes là. C'était ça l'idée de Yanama.
Oui, parce qu'il y a une tendance peut-être du pouvoir à s'emmurer et à fonctionner en
vase clos. Les politiques, ça, ce n'est pas que le pouvoir, c'est tous les hommes politiques qui pensent que l'histoire du pays, c'est eux. Ils ont tendance à déposséder les populations de leur capacité et de leur pouvoir de façonner la marche de l'histoire du pays. Ça, c'est tous les politiciens. Tous ceux qui sont dans les partis politiques classiques, ils pensent qu'ils ont le privilège. D'ailleurs, mon ami Tchat avait un discours, il disait aux Sénégalais, pourquoi les politiciens, ils ont le droit de parler de foot, ils ont le droit de parler de l'économie, ils ont le droit de parler de politique, ils ne veulent pas que nous, on parle de politique. Tiens, alors que c'est nous qui faisons la politique. Parce que c'est nous qui élisons.
Oui, ou que c'est notre société, tout simplement.
C'est notre société, tout simplement. Voilà. Mais parce que les politiciens, ils ont réussi à faire croire aux gens. Parce que aussi, et puis c'est ça, tout ça qui fait que, finalement, les gens ne s'intéressent plus à la politique. Ils ont démissionné. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas leur affaire. Surtout les jeunes. Ils pensent que ce n'est pas leur affaire. C'est l'affaire des partis politiques classiques. Alors, non, c'est notre affaire. Parce que c'est la marche de notre pays. Donc, nous, à travers ces actions symboliques, on montrait que non, il faut se la réapproprier pour pouvoir redémarrer. Tu vois, pour pouvoir entamer l'autre épisode. Voilà. Ça leur dit que non, tout ce qui s'est passé, c'est pas vous. C'est pas que vous, c'est nous tous. Et nous avons notre rôle et nous jouerons ce rôle.
Donc, il y en a marre, ça a permis de politiser beaucoup de problèmes de la société qui n'étaient pas politisés ou en tout cas pas lus comme tels.
Mais quand il y a une coupure d'électricité et que l'électricité revient, tout le monde dit Alhamdoulilah, Dieu est grand, l'électricité est revenue. Et que vous arrivez à imposer, jusqu'à présent, s'il y a 5 minutes de coupure d'électricité, le gouvernement il fait un communiqué. C'est ça que Yanamar a servi aussi.
Donc c'est fini l'impunité.
Ah non, c'est fini. Parce que les gens, ils ont compris que la population, ils ont compris que ce n'est pas Dieu qui vient faire les choses. Ils ont dit, non, dit, il y a la mort et fal. Ça veut dire que, non, un dirigeant, c'est Dieu qui le choisit. Non, ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est nous qui choisissons. Donc voilà, il faut justement repolitiser tout dans l'imaginaire des Sénégalais la marche simplement du pays. Parce que si on ne le politise pas, eh bien, il y a toujours des impunités. Le frère du président peut continuer à voler du pétrole en disant que le pétrole, c'est Dieu qui nous l'amène. Et quand on parle trop, Dieu va le récupérer ou va nous amener une malédiction. Alors que non, la malédiction, c'est le traitement qu'on fait du pétrole qui arrive.
Et du coup, alors par rapport à tout ce qui s'est passé en 2011, les victoires, ou en tout cas ce que vous estimez être des belles avancées ou vrai progrès, en tout cas dans la marche de la société civile pour se réapproprier le pouvoir de décider de son propre destin. Aujourd'hui, où est-ce que Yanamar en est? Comment est-ce que s'est converti toute cette énergie et toute cette mobilisation sociale populaire de la société sénégalaise et surtout de la jeunesse? Comment est-ce qu'elle s'est convertie? Donc il y a eu l'alternance. Mais est-ce qu'il y a, je ne sais pas, en fait, c'est vraiment une vraie question. Est-ce que le champ d'action, de la mobilisation sociale et politique, ou politisée, est-ce qu'il s'est diffusé dans d'autres activités? Comment est-ce que se transforme, en fait, si on a marre aujourd'hui, ou quelles sont tout simplement les activités que vous menez là, quand il n'y a pas nécessairement d'urgence politique ou de...
Vous savez, quand j'ai l'habitude de dire que quand les défis baissent d'intensité, l'être humain naturellement a tendance à baisser les bras s'il n'est pas récupéré par le système, d'ailleurs contre lequel il se battait. Je m'explique. Quand Abdoulaye Wade est parti, il est parti avec, c'était le défi à relever presque pour la jeunesse et pour tout le monde. Il est parti, donc forcément, les gens ils ont eu tendance à baisser les bras. Et c'est dans ce contexte-là que Macky Sall a profité pour nous proposer de venir travailler avec lui, d'être récupéré par le système. Nous avons refusé d'être récupéré. Et nous avons aussi, en même temps, refusé de baisser les bras en sortant simplement notre projet de nouveau type de Sénégalais. Parce que nous avons dit que nous avons... Pour nous, le vrai changement, si ça ne doit pas venir des partis politiques et des hommes politiques, ça viendra des populations. Donc il faut continuer à réveiller les citoyens sénégalais pour en faire de très bons citoyens. Et pour cela, nous avons développé une panoplie de projets et d'activités dont le bureau où nous sommes abrite, tu vois, et nous travaillons avec des partenaires bailleurs de fonds, tu vois, comme on a travaillé à travers Oxfam, nous avons eu à travailler avec Ford Foundation, etc., etc., pour essayer de continuer ce travail de sensibilisation qui touche à la fois à la citoyenneté, à la fois la politique, parce que on essaie de réveiller les jeunes au plan local pour qu'ils participent aux décisions, aux prises de décisions dans les municipalités, mais aussi qui peut toucher l'environnement beaucoup. Nous venons de finir un projet d'amélioration du cadre de vie en banlieue, et le tout en gardant cette philosophie du nouveau type de Sénégalais pour impliquer davantage les jeunes. Yanamar fait ce travail-là. Mais votre question aussi m'amène et aussi nous animons la plateforme Afriki, parce que Yanamar a fait ses émules un peu partout en Afrique, partout il y a des mouvements citoyens, et nous avons réussi à nous mettre ensemble et on a plusieurs activités communes. Nous organisons par exemple l'Université populaire de l'engagement citoyen qui se tiendra bientôt à Dakar au mois de février prochain. Il y a déjà une première édition qui est passée. Nous avons mis en place un fonds d'assistance de l'action citoyenne, où nous aidons beaucoup les jeunes qui sont soit en prison dans leur pays, etc., etc. Voilà, nous travaillons aussi avec les artistes engagés. Voilà, nous faisons beaucoup de choses pour animer tous ces réseaux-là, à la fois au Sénégal, dans le cadre d'Yanamar, et les autres réseaux un peu partout. Nous mutualisons beaucoup les bonnes initiatives, les bonnes expériences au plan africain. Mais mes réflexions personnelles n'ont rien à voir aussi avec Yanamar, que je préside plus. Parce que tout ça, voilà, le mec qui vient d'arriver de faire un signe, c'est Guimali Sagna, qui est un autre mouvement citoyen, parce que même au Sénégal, ça a permis un foisonnement de mouvements citoyens. Tu vois des gens, là c'est France Dégage, qui sont beaucoup sur l'économie contre la signature des APE, etc. Il y en a plein. Okay. Voilà. Mais moi, j'ai toujours pensé que même nous appeler sujet civil n'est pas approprié. Parce que j'estime que à la naissance de Yanamar, c'était une réponse à un besoin. Et les besoins ne sont pas statiques. Mm-hmm. Tu vois, les choses ne sont pas figées. Le monde bouge, il faut bouger avec. Mm-hmm. C'est pour ça que je pense que tout le temps, le mouvement citoyen doit se réinventer.
Ouais.
Doit se réinventer. D'où mon intervention aux ateliers de la pensée.
Mm-hmm.
Aux ateliers de la pensée, qui était de dire...
À Dakar, là... Fin octobre, début novembre 2019, mm-hmm. Les ateliers de la pensée qui se sont tenus à Dakar.
Justement, où mon intervention était de dire que, à un moment, le mouvement citoyen, tel que nous l'appelons aujourd'hui, n'est pas né pour apporter une solution à un problème, et une fois que ce problème-là est réglé, de rester figé sur ce problème-là et de ne plus avancer. Moi, je pense que les choses sont dynamiques. Et nous devons nous inscrire dans ce dynamisme-là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nos pays avancent, au fur et à mesure que les besoins se renouvellent, les problèmes se renouvellent, la réponse des mouvements citoyens doit être autant. De ce renouvellement doit être tout le temps pensé.
Adapté, en fait.
Adapté. Parce que sinon, ce qui va nous arriver, c'est ce que mon ami Valsero du Cameroun appelait le bug. Le bug ou l'impasse des mouvements citoyens. Par exemple, on arrive dans un pays... On arrive à chasser le pouvoir, le même pouvoir s'installe en s'incarnant sur d'autres personnes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à le combattre jusqu'à quand? Mm. Jusqu'à quand? Il y a un besoin de renouvellement de l'offre politique.
Mm-hmm.
Il y a un besoin de renouvellement du personnel politique. Il y a un besoin urgent de réenchantement de la politique, tout simplement. C'est ce que je disais.
Mm-hmm.
Donc je dis que les prochaines étapes de toutes ces énergies africaines à travers les jeunes et les qui sont plus jeunes comme moi qui sont encore dans cette mouvance là, c'est de continuer à s'inventer.
Mm.
C'est de continuer à s'inventer et de ne pas rester cloisonnés, tu vois, eux-mêmes après s'être affranchis, qu'ils refusent qu'on les mette des œillères ou que eux-mêmes se cloisonnent parce que justement ils ne doivent pas toucher à ça, ils ne doivent pas toucher à ça. Non, on est né dans un dynamisme, il faut que ce dynamisme là continue.
Mm. Et est-ce que vous avez envisagé peut-être que les universités populaires
citoyen.
De l'engagement citoyen sont une forme de réponse à cette question-là, mais du coup, si le personnel politique doit changer, se transformer, ça passe aussi par la formation de nouveaux hommes et femmes politiques, par l'éducation en partie, et puis peut-être aussi une autre voie que vous avez, j'imagine... abordé à travers la mobilisation des populations dans des projets très concrets, que ce soit d'organisation de collecte de déchets près des manifestations ou autres. Vous avez pu vous rendre compte que vous pouviez avoir un impact très fort, immédiat, direct sur la réalité de la société, et que ça pouvait aussi passer par d'autres formes que simplement un engagement politique, mais aussi un engagement sous une forme peut-être plus entrepreneuriale, entrepreneuriat social.
C'est l'engagement politique qu'il faut réinventer, simplement. C'est quoi l'engagement politique, en fait? Est-ce que c'est se réunir chaque jour entre quatre murs, décider de comment ça va marcher le pays et de venir le sortir et dire aux populations, viens là, c'est bon, j'ai la solution. Si vous êtes d'accord, venez avec moi et je vais aller dire aux populations que j'ai leur solution magique. Après que vous êtes élus, on se rend compte que vous ne ferez pas plus que ce que les autres ont fait parce que c'est comme ça que ça se passe depuis la Révolution française.
Ouais.
C'est le système. Il faut. C'est qu'on n'a pas le courage de penser de nouvelles choses. On n'a pas ce que j'appelle l'audace d'inventer. Il faut avoir le courage d'inventer d'autres choses. Et ça, il faut y arriver. Il faut y arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'en Afrique, ce n'est pas qu'au Sénégal. Le monde est figé. Le monde est statique. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas. Parce que les gens ne sont plus capables de créer autre chose que du connu. On n'est que dans le connu. Alors, moi, mon rêve, c'est de sortir du connu. Comme le dit d'ailleurs l'auteur, la Namush Kachari, j'arrive jamais à dire son nom. Tu vois, son livre qui s'appelle « Se libérer du connu » d'ailleurs. Il faut se libérer du connu. Parce que tant qu'on ne se libère pas du connu, on n'est pas capable de faire autre chose. Là, regarde ce qui se passe. Même en France, Macron qui a été élu contre l'extrême droite d'ailleurs, Edouard Plenel l'a rappelé pendant les assises de la pensée, la nuit de la pensée à l'Institut français. Il a été élu contre l'extrême droite, mais pour se faire élire, il est obligé presque, il pense être obligé de sortir le programme de l'extrême droite contre lequel, lui, il a été élu. Parce que les gens n'arrivent pas soit à avoir le courage de faire ce que tout le monde veut, parce que c'est ça l'impression que j'ai dans ce monde. Personne n'a le courage de faire ce que tout le monde veut. Parce que tout le monde veut un autre monde. Tout le monde veut qu'il y ait une transition écologique. Tout le monde veut qu'on repense nos manières d'être, simplement. Et ça, malheureusement, je suis désolé, mais ça se fera au niveau de la politique. Vous ne pouvez pas élire un Bolsonaro au Brésil, élire un Trump aux États-Unis et espérer avoir un autre monde. Ce n'est pas possible. Et c'est en cela que le pouvoir politique est important. Moi, je pense que le pouvoir politique est le premier outil de transformation de nos sociétés. C'est le premier outil. Il faut aller à l'assaut des pouvoirs politiques. Je demande aux jeunesses africaines, d'ailleurs, d'aller à l'assaut des pouvoirs politiques. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter du peu. Tout ce que nous faisons en tant que Yanamar, nous, c'est bien. C'est très bien. On le fait en tant que nos frères guinéens là, du FNDC qui arrivent parce que nous préparons aussi une réunion panafricaine à ce moment-là. Ce qu'ils font là, c'est très bien. Ce que nos amis de Frappe France Dégage, ils font. Mais c'est très bien. Mais on le fait que pour réagir. On ne fait que pour réagir.
On n'est pas dans l'anticipation.
On n'est pas dans l'anticipation. On n'est pas dans l'articulation de nos visions. Nos visions s'articulent contre les visions d'autrui, mais ne construisent pas. Et ne s'articulent pas. Et ça, malheureusement ou heureusement, ça ne se fera qu'avec les pouvoirs politiques.
Et les intellectuels aussi, peut-être.
Les intellectuels, tout le monde est intellectuel. Je ne suis pas un anti-intellectuel primaire. Je participe à beaucoup. Oui, c'est extrêmement important. Mais eux-mêmes, d'ailleurs, je leur ai dit ça pendant les ateliers. L'Afrique, qui a articulé cette vision alternative africaine? C'est les Frantz Fanon, c'est les Aimé Césaire. On a beau contre Senghor, mais il était là avec sa négritude. Tu vois, même si après on peut penser ce qu'on veut de Néré, un effort de penser. Cheikh Anta Diop, Nyerere, Oumniobé, qui sont-ils? C'était de grands penseurs. Amilcar Cabral, c'était de grands penseurs avant d'être des hommes politiques, grands hommes politiques. Mais aujourd'hui, où sont nos grands penseurs et hommes politiques? Je leur dis ça, j'ai dit ça à Achille, Bachir et Fellune. Depuis 3 ans, depuis 4 ans, je leur répète ça. Parce que depuis la première tenue des ateliers de la pensée, je leur dis, mes amis, je l'ai répété l'autre jour au Musée des civilisations noires, que l'Afrique, il y a de braves Africains qui étaient de grands penseurs, mais qui ont eu le courage d'être aussi de grands hommes politiques, quoi que ça leur coûte. Mais aujourd'hui, nous avons de grands penseurs dans les amphis. Et nous avons de piètres politiciens à la manette qui dirigent l'Afrique. Et vous pensez que la tendance va s'inverser? Et c'est en cela aussi que la réponse de Félix Sarr a été intéressante. Il faut faire corps. Parce qu'eux seuls, ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais il faut faire corps. Et c'est l'enjeu, c'est de faire corps. Pour moi, faire corps, c'est le seul combat de notre génération. C'est l'enjeu. Faire corps entre tous ces jeunesses insurgées qui pensent que notre monde est possible et tous ces penseurs insurgés qui pensent un nouveau monde. Mon ami Hamidou Kane a même sorti un bouquet « Penser l'Afrique qui vient ». Il est en train de réparer déjà l'Afrique qui vient. Penser avec ANS pour réparer l'Afrique qui arrive. Politiquement, qu'est-ce qu'on a? Il peut le penser, mais après les gens, ils vont le mettre, ils vont se torcher avec. C'est ce que dit mon ami Valsero. Il dit que mes gars, nos déclarations et nos communiqués, pour le bien, ils se torchent le cul avec. Excusez-moi le terme. Vous voulez le censurer, vous vous enregistrez. Bon, bref, c'est ça que nous avons. Alors, il faut faire corps. Et faire corps, c'est un autre son. Je l'ai dit aux athées de la pensée que les Wolof disent « Koutub dal ti khal desenele banen tabin »« Banen tab ou banen tabin » Ça veut dire que Si tu sautes et que tu tombes sur une braise, il vous reste un autre saut à faire. Parce que vous n'allez pas rester sur la braise. Voilà. Un autre penseur africain dit non. Il dit il vous reste une autre façon de sauter. Parce que peut-être que tu es tombé sur une braise à cause de ta manière de sauter. Il faut changer la manière de sauter. C'est en cela que je dis que c'est intéressant. Et c'est cet effort-là que nous faisons pas. Nous allons sauter de la même manière. Je discutais avec un éminent avocat, membre de la justice sénégalaise, qui a beaucoup fait dans la justice sénégalaise, qui s'appelle même Adam Gueye. J'ai eu la chance de le rencontrer en marge de cette idée de la pensée. Il me dit, Fadel, parce que je ne le vois plus dans l'espace, il me dit, mais Fadel, depuis combien d'années, combien de décennies, j'allais dire, on fait la même chose qui produit les mêmes résultats. Est-ce qu'on doit continuer à le faire? Parce que nous sautons, nous tombons sur une braise et nous sautons de la même manière. Et on retombe sur les mêmes braises. Et alors, il faut oser réinventer cette autre façon de sauter. Et pour moi, c'est l'enjeu de nos prochains, c'est nos prochains chantiers.
Et c'est quoi un peu les pistes donc, de ces nouvelles manières de
sauter? Il faut les contourner. Si je dois écrire un livre, ce sera ça bientôt. Les contours d'un récit alternatif. Je l'ai dit aux années de la pensée, il faut d'abord réarticuler pour réactualiser le vieux discours panafricain et alternatif. Il faut comprendre ce que Fanon disait. Il faut comprendre ce que les Oumniobé, Cheikh Anta Diop, Krouma disaient. Il faut les comprendre. Il faut l'adapter d'abord, pour le comprendre, pour le réadapter aux besoins de ce que l'Afrique est devenue. On ne peut pas aussi penser l'Afrique à partir de 1960, c'est pas possible. Il faut le penser maintenant. L'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique des selfies, l'Afrique des WhatsApp, l'Afrique. L'Afrique, je disais d'ailleurs aux ateliers, où on est japonais le matin, arabe le soir, français l'après-midi et indien, parce que nous sommes même débordés par les téléfilms indiens, qui nous façonnent. Nous sommes devenus quelque chose. Donc il nous faut réarticuler ce discours des vieux, je les appelle bien des vieux, de ces penseurs, par rapport aux besoins et ce que nous sommes devenus. Important, extrêmement important. Et à partir de ce moment, le reste, c'est notre niveau de créativité pour voir comment avancer ensemble. Parce que c'est impossible dans nos états, dans l'état où les colons ont laissé l'Afrique, de vouloir faire quelque chose de viable. Ce n'est pas possible de respecter les frontières d'aujourd'hui et de vouloir créer de l'épanouissement en Afrique. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est mathématiquement impossible. C'est impossible. Ça a été fait à dessein pour nous maintenir dans un asservissement. Et nous, aujourd'hui, nous avons la fierté de porter les marques de cet asservissement-là. Quand je regarde nos frontières, le Malien qui s'accroche à son micronationalisme à deux sous, le Gambien, le Guinéen, le Sénégalais, le Congolais, j'ai honte. Ça, il faut l'effacer. Il faut le régler très vite. Il est d'autant plus urgent de le régler que ça peut être une réponse contre la saignée. Achille Bembe l'a bien expliqué aux ateliers de la pensée, en disant que l'immigration, il faut d'abord l'organiser au niveau du continent.
Oui, d'autant plus que 80% des migrations africaines
sont en Afrique, mais c'est dur. C'est dur même d'être africain en Afrique. Vous allez au Mali en tant que Sénégalais, vous vous rendez compte que c'est dur d'être africain en Afrique. Ça, il faut le régler. Il est urgent de le régler. Il est urgent de faire sauter ces verrous-là. Et ensuite, il y a des mécanismes économiques d'asservissement aussi dont j'ai honte encore de le porter. C'est l'exemple du franc CFA. C'est des choses qui doivent sauter tout de suite, rien que pour les imaginaires. Et ensuite, petit à petit, réarticuler ces discours. Mais avant ça, il y a des préalables. Et ces préalables, c'est là où je suis tranquille, on y travaille. Parce que nous sommes en train, comme ce qui s'est passé pendant les moments de comment ça s'appelle encore là, vous savez, vous vous rappelez que le moment de la FEANF, la Fédération des étudiants africains noirs de France. Parce qu'à l'époque, avant les indépendances, ils se sont tous rencontrés en France, ils sont tous connus. La FEANF avait ça. Et ce sont ces mêmes étudiants qui presque ont animé le PRA Afrique. Tu vois?
Le PRA?
PRA Afrique, qui était le parti pour la, je ne sais plus. Mais le PRA, en tout cas, c'était un grand rassemblement de partis africains où différents leaders de différents pays se sont retrouvés et ils ont proclamé ensemble l'indépendance à Cotonou. Où c'est l'AG du PRA qui avait demandé à ce que les États répondent non au référendum de Gaulle en 1958. Beaucoup ne l'ont pas respecté. Mais au Sénégal, dans le cas du Sénégal, à l'époque, le PRA Sénégal animé par à l'époque les Amadou Maktarbo Abdoulaye Ly, qui deviendra plus tard, après son entrisme, ministre de l'éducation, ministre de la culture, et ensuite président, directeur de l'UNESCO, Amadou Maktarbo Abdoulaye Ly, un grand Africain. Et ils avaient refusé, et dans l'UPS, ils s'étaient battus. C'est comme ça que d'ailleurs l'UPS s'est fragmenté entre PRA Sénégal et l'UPS a continué aux indépendances, parce que bon, bref, c'est une autre histoire. L'idée, c'est de dire que pendant cette période, juste avant les indépendances, des jeunes, des Africains se sont connus en Afrique. C'est comme ça que les présences africaines sont nées. C'est comme ça que la négritude est née. Ils se sont connus et ils ont envisagé un destin commun pour l'Afrique. Mais après, une fois en politique, ils se sont séparés. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train de jeunes leaders africains se retrouvent et envisagent l'Afrique de demain ensemble. C'est ça la pertinence de l'Université populaire de l'engagement citoyen et africain. Parce que beaucoup de leaders africains de tous les pays, de l'Afrique du Sud au Maroc, du Sénégal à l'Érythrée, se retrouvent à Dakar pendant 4 jours et envisagent un destin commun. C'est extrêmement important. Parce que j'estime que si on ne l'arrête pas, c'est important de créer déjà ces ponts-là. Donc je dis que nous, déjà au niveau de mouvement citoyen, nous sommes en train de travailler, de travailler à cela. Mais il ne faut pas s'arrêter. Ce que font les ateliers de la pensée, c'est extrêmement important, parce que sur le plan des imaginaires aussi, ils sont en train de jouer un rôle extrêmement important. Donc voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives qui concourent et qui corroborent et qui sont complémentaires, mais demain, il faut que le mot de
faire corps.
Parce que si on ne fait pas corps, eh bien, on sera bouffé, comme on nous a bouffé et on continue de nous bouffer depuis les indépendances et avant, parce qu'on nous divise.
Merci
Fadel Barou. Merci.
C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. On espère que cet épisode vous a plu, que vous aurez envie de découvrir les autres et d'en parler autour de vous. Si vous voulez creuser des sujets et recevoir la lettre de ressources qui accompagne désormais chaque épisode et être tenu au courant de nos événements, vous pouvez vous abonner en suivant le lien dans la description. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et nous écouter sur les plateformes amies comme R22.fr ou Imago TV. La musique du générique est un extrait de l'album « Parler d'années de la Terre » de Rossé, et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou Ambateba. À bientôt.